Amnesty International est un mouvement mondial réunissant plus de 7 millions de personnes qui agissent pour le respect des droits fondamentaux de chaque individu. Nous agissons dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Solidarité, impartialité, indépendance sont nos grands principes.
Avec Amnesty, aujourd'hui avec Dominique Duranton et Sabine Kieffer. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler des Ouïghours, Dominique.
Oui, et parce que Amnesty International vient de faire paraître un rapport de 160 pages sur la situation des Ouïghours et des minorités musulmanes donc dans le nord-ouest de la Chine, au Xinjiang. Et je voudrais simplement, avant de laisser la parole à Sabine, rappeler que ce n'est pas un problème qui surgit comme ça de nulle part et que c'est un problème très ancien auquel la communauté internationale n'a pas fait attention. Puisque en 2015, lorsque nous avions fait notre première exposition d'art par le groupe Creuse sur la liberté d'expression, eh bien, on avait obtenu d'Hervé Herp et de Lauriane Baudouin qu'ils mettent en espace à la fabrique de Guéret un poème, le poème d'un poète ouïghour, Nur Mehmet Yazin. Et ce poème, c'était Le Pigeon Sauvage, qui était un hymne à la liberté. Et pour ce simple poème, Nur Mehmet Yazin avait été condamné à la prison, et d'ailleurs à 10 ans de prison, et on pense même qu'il est mort en prison des suites de maltraitance. Donc c'est un problème qui est vraiment très ancien, mais qui ressurgit maintenant parce que ça ne fait que s'accélérer et s'accentuer de façon terrible. Donc je laisse la parole à Sabine.
Comme si nous étions des ennemis de guerre, fissurer le mur chinois du déni.
Dans l'enquête inédite d'Amnesty, plusieurs dizaines de témoignages d'anciens détenus détaillent les mesures prises par les autorités chinoises depuis 2017 pour éliminer les traditions religieuses, les pratiques culturelles et les langues des minorités ethniques musulmanes de la région du Xinjiang. Ces mesures répressives sont orchestrées à grande échelle par l'État et s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Perpétrés souvent sous couvert de lutte contre le terrorisme, les emprisonnements, les tortures et les persécutions visent les minorités musulmanes du Xinjiang, les Ouïghours, les Kazakhs, les Ouïs, les Kirghizes, les Ouzbeks et les Tadjiks. En Chine, des centaines de milliers de personnes musulmanes sont internées, torturées et persécutées dans des camps dits de transformation par l'éducation. Le but ? L'assimilation à une nation laïque et homogène par l'élimination de leurs traditions religieuses et culturelles, ainsi qu'une loyauté indéfectible à l'égard du Parti communiste chinois.
Droits humains bafoués.
Cette démarche d'assujettissement et d'assimilation forcée bafoue plusieurs droits humains, notamment le droit à la liberté et à la sécurité, le droit au respect de la vie privée, le droit de circuler librement, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance, le droit de participer à la vie culturelle ainsi que le droit à l'égalité et celui de ne pas être discriminé. Ces violations sont tellement généralisées et systématiques qu'elles sont désormais un aspect inexorable de la vie quotidienne des millions de membres des minorités ethniques à majorité musulmane du Xinjiang.
Ne rien divulguer.
L'État chinois a pris des mesures extrêmes pour empêcher la collecte d'informations précises sur la situation dans le Xinjiang. Il est particulièrement difficile de trouver des renseignements fiables sur la vie des camps dans les camps d'internement. Les éléments qu'Amnesty a rassemblés depuis 2017 fournissent une base factuelle qui permet de conclure que l'État chinois a perpétré des crimes contre l'humanité.
La procédure chinoise.
Le placement en camp d'internement semble intervenir en dehors du système judiciaire chinois et de toute autre législation du pays. Selon les documents émanant des autorités, il ne conviendrait pas d'appliquer la procédure pénale car les personnes se trouvant dans les camps sont des volontaires et non des criminels. Cependant, comme le montrent les témoignages, le séjour dans un camp n'est pas facultatif et les conditions qui règnent dans ces établissements sont un affront à la dignité humaine. Amnesty a interrogé plus d'une cinquantaine de personnes qui ont toutes été détenues pour des actes totalement légaux au regard du droit international, comme la possession d'une image religieuse ou la communication avec une personne se trouvant à l'étranger. Eman, un représentant de l'État qui a participé à des arrestations collectives, a indiqué à Amnesty International que fin 2017, la police était allée chercher des personnes à leur domicile sans les avertir.
Donc il témoigne. J'étais là. La police faisait sortir des gens de chez eux, avec les poignets menottés dans le dos, même des femmes. Ils leur mettaient des cagoules noires. C'était impossible de résister. Imaginez que soudainement, un groupe entre chez vous, vous menotte et vous mette une cagoule noire sur la tête. C'était très triste. Cette nuit-là, nous avons procédé à 60 arrestations, rien que dans un district.
La plupart des victimes ont d'abord été interrogées dans un poste de police, où leurs données biométriques et médicales ont été enregistrées, avant leur transfert dans un camp. Souvent, elles étaient interrogées dans une chaise du tigre. Il s'agit d'un siège métallique, équipé d'entraves pour les pieds et de menottes, qui permet d'immobiliser la personne dans une position douloureuse.
La vie dans les camps.
Dans les premières semaines, voire les premiers mois de leur internement, les personnes détenues sont généralement contraintes à rester assises ou à genoux dans leur cellule, sans bouger et en silence, pendant la majeure partie de la journée. Après cette période, elles sont habituellement soumises à une éducation forcée qui consiste à les endoctriner pendant 6 à 8 heures par jour pour qu'elles désavouent l'islam, renoncent à leur langue et à leurs pratiques culturelles, apprennent le mandarin et étudient la propagande du Parti communiste chinois. Il s'agit d'inculquer que le président Xi Jinping et le PCC sont puissants et bienveillants. Outre les moments où elles sont escortées par des gardiens pour se rendre au réfectoire, en classe ou en interrogatoire, les détenues ne quittent pratiquement jamais leur cellule. Aucune vie privée, surveillée en permanence, interdiction de parler aux autres. Toutes les personnes détenues devaient travailler 1 à 2 heures par nuit pour surveiller leurs compagnes ou compagnons de cellule. Chaque activité quotidienne est définie à l'avance et le comportement des personnes détenues est constamment suivi et évalué. Yerulan, un ancien détenu, a indiqué à Amnesty International qu'il était convaincu que les cours d'éducation politique visaient à empêcher les détenus de conserver et de pratiquer leur religion.
Donc il a dit à Amnesty International, « Je crois que l'objectif des cours était de détruire notre religion et de nous assimiler. » Ils ont déclaré qu'on ne pouvait pas dire « Salam alaikum », qui est le bonjour en musulman, et que si on nous demandait notre appartenance ethnique, nous devions répondre « chinois ». Ils ont dit qu'on ne pouvait pas se rendre à la prière du vendredi et que ce n'était pas Allah qui nous avait tout donné, mais Xi Jinping. On ne devait pas remercier Allah, mais Xi Jinping pour tout.
Tous les anciens détenus qui se sont entretenus avec Amnesty International ont été victimes de tortures ou de traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants pendant leur internement. Parmi les méthodes de torture utilisées pendant les interrogatoires et à titre punitif, citons les coups, les décharges électriques, les positions inconfortables, le recours illégal à l'immobilisation dans une chaise du tigre par exemple, la privation de sommeil, la suspension au mur, l'exposition à des températures extrêmement froides et la détention à l'isolement. Ces traitements infligés de manière presque systématique par le personnel et les responsables des camps font écho à la torture et aux formes de mauvais traitements que les forces de sécurité chinoises infligeaient couramment dans le Xinjiang et dans d'autres régions de Chine depuis des décennies. Mansur, un agriculteur, a indiqué à Amnesty International qu'il avait été torturé à plusieurs reprises dans 2 camps lors de sa détention, à la fois en interrogatoire et au cours de multiples séances de punition.
Il a décrit son interrogatoire. 2 gardiens m'ont sorti de la cellule et déposé dans la pièce où j'ai été interrogée. Il y avait 2 hommes à l'intérieur. Ils m'ont demandé ce que je faisais au Kazakhstan, si je priais là-bas, ce que mes parents faisaient. J'ai dit que je restais toujours auprès de ma famille, que je m'occupais du bétail et que je ne faisais rien d'illégal. Ils m'ont questionné au sujet de la mosquée et de la prière. J'avais entendu que si je leur disais que je priais, je serais condamnée à 20 ou 25 ans. Alors je leur ai dit que je ne priais jamais. Ils se sont énervés. Ils ont dit « Tout ce temps passé avec le bétail a fait de toi un animal. » Ils m'ont battu avec une chaise jusqu'à ce qu'elle casse. Je suis tombée par terre. J'ai failli m'évanouir. Et ensuite, ils m'ont remis sur une chaise et ils ont dit « Cet homme n'a pas encore changé. Il doit rester encore plus longtemps au camp. »
Mandy a indiqué à l'organisation qu'il avait assisté à des actes de torture.
Alors, la description de la torture, c'est la torture de la chaise du tigre, dont on a déjà parlé, mais je ne peux pas tout lire parce que c'est trop horrible. Il faut simplement qu'on s'imagine une sorte de fauteuil en fer où on ne peut absolument pas bouger. Tous les membres sont reliés à la chaise, y compris la nuque, la tête, et on peut rester des heures et des heures. Et là, la description que fait ce prisonnier, il raconte qu'un de ses compagnons de cellule a été dans la cellule. On a amené la chaise du tigre et on a attaché cet homme sur la chaise du tigre en interdisant aux deux autres prisonniers d'intervenir. Sinon, c'était eux qui passaient sur la chaise du tigre. Et pendant 3 jours, sans pouvoir bouger, cet homme est resté sur cette chaise. Et bon, on peut imaginer ce que ça représente que de rester ligoté, sans pouvoir bouger, pendant 3 jours, sur une chaise. Et ben, la conclusion, c'est que cette pauvre personne est morte au bout des 3 jours. Voilà. Donc ça, c'est une des tortures courantes qui est infligée aux minorités musulmanes dans ces camps dits de rééducation.
Un régime de surveillance.
Les musulmans qui vivent dans le Xinjiang sont peut-être le groupe de population le plus étroitement surveillé au monde. L'efficacité brutale et l'ampleur considérable de la campagne menée par l'État sont sous-tendues par un recours sans précédent aux technologies de surveillance, auxquelles s'ajoute la capacité des pouvoirs publics de faire en sorte qu'une grande partie de la population de la région l'aide à concrétiser ses volontés. L'État s'appuie sur une surveillance physique et électronique à laquelle il est pratiquement impossible d'échapper et qui permet de suivre et d'évaluer constamment le comportement des minorités ethniques. À noter également que des cadres du parti ou de l'administration peuvent séjourner chez les habitants pour les espionner.
Témoignage de discrimination.
Yin, une personne appartenant à la majorité Han, qui s'est rendue dans le Xinjiang, a parlé à Amnesty International des discriminations observées pendant son séjour.
Il y a des caméras de surveillance absolument partout. La discrimination est criante. Dans le train, ils n'ont rien vérifié pour moi, alors que pour les Ouïghours, assis juste en face de moi, ils ont vérifié les billets et les téléphones. À la gare, il y avait 2 files. Pour les contrôles de sécurité, une pour les Ouïghours et une pour les Han, qui devaient simplement passer à travers un détecteur de métaux sans reconnaissance faciale. La file des Ouïghours était très longue. Au niveau d'un tunnel situé dans une grande ville, j'ai juste eu à traverser, mais les Ouïghours devaient subir une vérification corporelle complète avec détecteur de métaux, même les hommes âgés. Ils étaient contrôlés à la fois à l'entrée et à la sortie du tunnel. J'avais un sac de voyage, mais personne ne l'a contrôlé. J'ai passé le portique de sécurité, mais personne n'a vérifié avec un détecteur portatif. Parce que je suis Anne, je n'ai pas subi de contrôle. J'ai parlé à un représentant de l'État qui m'a dit « Les Ouïghours doivent être traités différemment parce qu'il n'y a pas de terroriste Anne. »
Amnesty International est convaincue que les éléments qu'elle a rassemblés fournissent une base factuelle qui permette de conclure que l'État chinois a perpétré au moins les crimes contre l'humanité suivants. Emprisonnement ou privation importante de liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international, torture et persécution.
Alors, quelles sont les recommandations d'Amnesty International suite à ce rapport? Eh bien, tout d'abord que la Chine, bien sûr, démantèle immédiatement tous ces camps d'internement, libère les personnes détenues arbitrairement et mette fin aux attaques systématiques contre les musulmans du Xinjiang. Deuxième appel d'Amnesty International, cette fois à la communauté internationale qui doit absolument se saisir de ce sujet, qui doit agir à l'unisson pour que cessent ces atrocités et pour qu'il y ait une enquête qui soit faite et qui aboutisse eh bien, la réalité des faits et que la Chine ne se sente pas au-dessus du contrôle international et qu'elle se sente eh bien, visée et responsable de ces violations des droits humains.
Merci Dominique et Sabine pour cette présentation qui nous laisse pas indifférents. On a l'habitude de continuer nos rendez-vous avec Amnesty avec une bonne nouvelle et je pense que ça va faire du bien et c'est Dominique qui va nous la donner aujourd'hui.
Oui, alors la bonne nouvelle, eh bien, elle est dans la suite logique de notre intervention puisque suite à ce rapport d'Amnesty International, le dernier conseil, alors ce rapport est paru début juin et il y avait un conseil des droits humains, des droits de l'homme puisque l'ONU c'est les droits de l'homme, de l'ONU qui s'est tenu le 24 juin je crois à Genève. Et lors de ce Conseil des droits humains de l'ONU, 44 États se sont déclarés officiellement préoccupés par les graves violations des droits humains commises par la Chine au Xinjiang en s'appuyant sur le rapport d'Amnesty International. Donc c'est une avancée quand même. Ces 44 pays, dont la France, il faut le signaler, donc s'appuient sur cette déclaration et ils témoignent de leur inquiétude croissante au niveau international face aux crimes contre l'humanité commis par la Chine. C'est un message essentiel, mais bien sûr, il ne faut pas en rester là, parce qu'une déclaration, c'est une déclaration, c'est déjà bien, mais il faut maintenant passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la communauté internationale mette en place une enquête impartiale sur ces crimes, sur ces violations des droits humains que la Chine commet au Xinjiang envers les communautés minoritaires musulmanes. La déclaration identifie diverses violations qui étaient dénoncées par le rapport d'Amnesty. C'est la détention arbitraire massive, c'est la surveillance généralisée, la torture, la répression collective des minorités religieuses et ethniques. Donc, juste une petite chose, c'est que, parce qu'on nous pose souvent la question, Amnesty International ne parle pas de génocide encore, parce que, vu les recherches qu'elle a pu faire, mais elle n'a pas pu aller en Chine, bien sûr. Hein. C'est que des témoignages hors Chine. Mais on n'a pas encore assez de preuves pour que ce soit vraiment dénoncé comme un génocide. Et Amnesty s'appuie toujours sur des preuves, sur la recherche. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une enquête internationale qui aille au Xinjiang enquêter de façon impartiale pour dénoncer ces crimes contre l'humanité et faire tomber le mur du silence.
Il y a une pétition qu'on peut signer pour soutenir l'action d'Amnesty, Sabine.
Alors la pétition, le titre c'est « Le camp d'internement au Xinjiang, liberté pour les détenus ». Et nous serons présents le 14 juillet, toute la journée, au marché, à la petite brocante du Donzeil. Et cette pétition, nous la présenterons au public.
On peut aussi la trouver sur le site d'amnesty.fr. Et si on veut entrer en contact avec le groupe creusois que nous venons d'écouter, Dominique.
Alors, par Internet, c'est creuse@amnesty.fr. Ça peut être par téléphone au 05 55 64 26 84. Et je voudrais insister sur vraiment la nécessité de signer cette pétition pour faire avancer les choses et parce que la Chine ne veut rien voir. Et je pense que là, on est tous au niveau du monde entier concernés par ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle.
Merci Dominique, merci Sabine d'avoir été là. On vous retrouve pour un nouveau rendez-vous.
Merci Maxime de nous avoir accueillis.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.